Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue au club. On est parti pour deux heures de découvertes et d'idées qui vont rythmer votre été. Aujourd'hui, le club de l'été sera un club de jazz avec un musicien hors pair, un batteur hors norme. Il a joué avec les plus grands, Sting ou Peter Gabriel pour ne citer que. C'est aussi un homme de télévision, pas franchement le genre à se laisser mener à la baguette. Bonjour Manu Katché.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. On est ensemble jusqu'à 11h pour parler de votre impressionnante carrière de musicien. On partira aussi en vacances ensemble, hein, je vous l'annonce. Okay. Et puis on va vous tester tout à l'heure avec un blind test spécial sur les grandes intros de chansons à la batterie. Ça devrait normalement pas être trop compliqué pour vous. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter la fanfare du club. D'abord, Margot Barallon qui nous donne le là, car elle est toujours là où on ne l'attend pas. Où va-t-on, Margot,
c'est
aujourd'hui
mignon. Bonjour tout le monde. Eh bien, on partira dans le Cantal. Et puis, je vous parlerai d'une série Marvel à rattraper cet été.
Très bien. Et puis, Fred Goati, que vous connaissez bien, lui aussi nous donne le là, mais aussi toutes les autres notes. Salut, Fred.
Bonjour, Thomas. Bonjour
à
tous.
Ça va jazzer aujourd'hui, j'ai l'impression.
Oui, sous les pommiers, dans une belle ville de Normandie qui s'appelle Coutances. Et puis après, dans mon sac de pépites, il y aura plein de morceaux d'un certain... Comment s'appelle-t-il déjà ? Il jouait de la trompette. Miles Davis.
Ah ouais, je vois. Avant 10h, notre invité média sera le producteur Tony Comiti pour la nouvelle saison des Routes de l'Impossible à ne pas louper ce soir à 20h50 sur France 5. N'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. Merci d'être avec nous. Le club est ouvert jusqu'à 11h.
Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Merci beaucoup d'être là, Manu Katché, ça nous fait extrêmement plaisir, d'autant qu'en préparant cette émission, c'est vrai qu'on était tous impressionnés par votre carrière. On vous connaît, évidemment, on vous connaît bien, d'autant que, voilà, je le disais, vous êtes un homme de télévision, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément l'étendue de votre carrière. Alors, Manu Katché, eh bien, c'est par exemple tout ça.
Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles.
Cabrel, Hallyday, Goldman, on ne peut pas faire beaucoup plus fort en France.
Alors c'est drôle parce que Hallyday, j'ai jamais joué en fait avec lui. J'avais enregistré pour Goldman à l'époque un titre. Ouais. Et finalement, je l'ai dû proposer à Johnny, à son âme. Et je me retrouve finalement sur un titre où Johnny chante dessus.
C'est ça. Et on aurait pu en citer d'autres. Hein. Véronique Sanson, Souchon, Voulzy, rien que pour les Français. Parce qu'il y en a aussi...
Jonas, évidemment.
Jonas, évidemment, on va en parler tout à l'heure. Et puis, il y en a beaucoup aussi à l'international. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez de plus pour que vous soyez sur presque tous nos CD?
Je sais pas, parce que j'ai pas de regard sur moi-même. C'est-à-dire que j'ai fait les choses à l'époque où il y avait effectivement beaucoup d'artistes qui enregistraient, jeunes artistes. Moi, j'étais jeune batteur. Je sortais du conservatoire. C'était facile de lire la musique, puisque évidemment, je faisais ça toute la journée. Donc, il y avait une facilité de réalisation d'enregistrement. Et il n'y avait pas beaucoup de musiciens français qui travaillaient. Il y avait des gens en place, hein, d'un certain âge. Nous, on était tout jeunes. Et puis voilà, j'ai ce qu'on appelle ce métier. Donc, je suis rentré dans ce métier. Et puis, donc, il y avait tous ces artistes-là qui nous ont sollicités. Mais je ne sais pas ce qu'il y a de plus. C'est simplement, je pense que j'étais quelqu'un de sympathique à l'heure et puis qui faisait bien son taf.
C'est vrai, je confirme, vous étiez à l'heure ce matin. Parfait. Vous avez reçu une formation classique, hein, vous le disiez. Vous avez fait du piano.
Oui, au début. Oui.
Pourquoi avoir choisi la batterie finalement?
Alors, en fait, j'ai fait du piano tout jeune. Et puis, quand j'étais au collège, vous savez, souvent, c'est l'époque où on joue au ballon, etc. Et moi, j'avais un problème un peu physique, une espèce de maladie étant tout petit, donc je ne pouvais pas vraiment faire de sport. Et j'avais un copain qui jouait de la batterie donc, au collège, qui me dit « Ouais, il y a des cours de batterie. » J'habitais en banlieue parisienne. « Il y a des cours de batterie, va voir. » Et j'avais vu à la télé un groupe, je ne sais pas lequel, souvent je le cite, mais je ne me souviens plus de ce groupe. Et j'avais vraiment bloqué sur le batteur, parce que la gestuelle était magnifique. Je voyais les bras qui partaient partout, je voyais des cymbales, je voyais plein d'éléments. Et ça me faisait envie. Donc mon pote me dit, va voir. Donc je vais voir au conservatoire. Ah, évidemment, il n'y a pas de cours de batterie. J'assiste à un cours de percussion classique. Et le prof me dit, voilà, si vous voulez, non, il n'y a pas de batterie, mais vous pouvez, on peut essayer 2-3 cours. Si ça vous branche, vous restez, sinon vous partez. Je suis resté, c'est lui qui m'a tout appris.
Et vous y êtes resté, bien tombé tombé dedans toute votre vie. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est la touche Manu Katché, là, j'ai avec moi mes baguettes, parce que moi aussi, figurez-vous, j'ai fait de la batterie. Voilà, je vous les prête, j'ai mes baguettes. J'ai deux, trois trucs aussi là-dedans, vous pouvez vous en servir. J'ai un carton.
Ok, voilà.
J'ai un livre aussi d'André Manoukian, vous pouvez taper dessus si vous voulez.
Avec plaisir.
des gourdes, enfin, vous en faites ce que vous voulez, et puis peut-être que ça nous permettra de mieux comprendre ce qu'est la touch Manu Katché, parce que c'est aussi... oui, c'est vrai, c'est un livre d'André Manoukian.
C'est un livre d'André Manoukian. On ne savait pas qu'il écrivait aussi.
C'est un artiste multitalent, lui aussi. C'est assez physique. Ah, vous, servez-vous du carton aussi. Ah, il peut vous servir le carton.
Pardon, Thomas.
Oui, bien sûr, ça c'est la base, ça, j'imagine. mais allez-y, hein, vous pouvez en faire ce que vous voulez.
D'accord.
C'est hyper physique, la batterie aussi.
C'est assez physique.
Ça, c'est le carton.
Ça sonne, hein?
Ah ouais, ça sonne, hein, avec pas grand chose, hein, franchement, c'est vraiment.
J'ai pas utilisé.
On vient en source du rythme.
Et il a respecté le livre d'entrée, Manoukian, c'est très beau de votre part. Voilà. Je disais, c'est assez physique.
Oui, c'est physique.
La batterie, est-ce que vous faites aujourd'hui les mêmes choses que vous faisiez il y a 20 ans?
Alors, je pense que j'étais un peu plus busy, comme on dit entre guillemets, il y a 20 ans, parce que j'étais plus en forme, j'étais plus jeune. Mais entre temps, j'ai fait quand même plus de 12 ans de yoga, donc ça m'a permis vraiment d'être extrêmement centré, donc d'utiliser au maximum le minimum produit. Donc je pense que au niveau de la puissance sonore, c'est comme il y a 20 ans.
Ouais, et d'ailleurs,
excusez-moi, et au niveau du jeu, c'est peut-être un peu plus minimaliste, mais au niveau de la puissance,
d'accord,
c'est la même chose.
Très bien. Et je crois que c'est Sting, hein, qui vous a mis au yoga d'ailleurs.
Ouais,
on va en reparler de Sting dans un instant. Merci d'être avec nous, en tout cas, jusqu'à 11h dans ce club de l'Est. Dans un instant, vous aurez le droit à votre portrait sonore. Mais d'abord, c'est la tradition dans cette émission. On écoute une chanson que vous aimez beaucoup. Et vous avez choisi du Marvin Gaye. Merci, merci, Mi. Et merci à vous d'être avec nous sur Europe 1.
Oh, oh, merci, merci, Mi. All things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. Mercy. All things ain't what they used to be now. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Mercy, mercy, me. Our things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are alive. Mercy, mercy, me. All things ain't what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand that?
C'était Marvin Gaye avec Merci, Merci Me sur Europe 1, le choix de Manu Katché, notre invité ce matin, qui va avoir droit dans un instant à son portrait sonore.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Le club de l'été avec Margot Barallon, Fred Gauthier, notre invité Manu Katché jusqu'à 11h. Et c'est l'heure, Manu, de votre portrait sonore, des petits extraits qui devraient vous rappeler des grands moments de votre vie. Voici le premier.
Un peu parti, un peu nage, descend dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu tout de ma vie. Les gars me regardent énervés.
La boîte de jazz, Michel Jonas, on en parlait il y a une seconde. Vous vous souvenez où c'est là?
Non.
Vous arrivez à reconnaître
non.
C'est aux Victoires de la Musique en 1985. Okay. Où vous avez été récompensé avec Michel Jonas pour l'album Uni vers l'Uni, oui. Dans lequel on trouve donc cette boîte de jazz. C'est l'album qui vous a fait connaître en fait.
Je suis pas sûr.
Non,
je suis pas certain. Je me demande s'il n'y avait pas eu un petit peu avant la boîte de jazz.
Il y avait Tristesse aussi.
Tristesse.
Oui.
Merci.
Mais ça, c'est le grand tube quand même.
Ah oui, au niveau de, oui, côté populaire, bien entendu. Oui, effectivement. Mais je pense que les gens déjà étaient présents sur l'album Tristesse, qui était très original pour l'époque.
Et quel souvenir vous gardez de cette collaboration?
La boîte de jazz, on avait fait l'arrangement, mais on était tout jeunes, donc Michel nous avait fait confiance, donc on ne se rendait pas compte trop de ce qu'il fallait faire. On avait plein d'idées, on avait plein de références, qu'on a d'ailleurs apportées sur ce morceau. Et finalement, plus de 30 ans plus tard, ça marche toujours autant. C'est étonnant, parce qu'en fait, on ne réfléchit pas quand on fait quelque chose, c'est juste, on fait avec passion et envie, donc c'est toujours plaisant de savoir que tout à coup, il y a une vraie réception positive de l'autre côté, quoi.
Allez, prochain extrait. Là, on passe en 1991.
C'est ça.
Vous sortez votre premier album en tant que chanteur, intitulé It's All About Time. Ouais. Dans la chanson Silence, on retrouve notamment au chœur Sting et Peter Gabriel,
qui chantent en français.
C'est pas mal de les avoir comme choristes.
Bah, alors en fait, cet album-là, c'était pas franchement pour faire un album de chanteur, c'est que j'avais envie, comme j'avais réussi à collaborer avec tous ces gens-là en très peu de temps, je me dis, j'avais une espèce de point d'honneur à les réunir sur un album pour dire voilà, c'est ce moment-là, on le retrouvera pas. Et comment faire pour être tous au même endroit? C'est faire un album. Donc ça a été produit par BMG France à l'époque. Et là, j'ai eu tous les gens avec lesquels j'avais travaillé. Donc, il y a évidemment Sting et Peter au voix, mais il y avait Brentford Marsalis au sax, il y avait David Sinkchoss au clavier, il y avait John Paul Jones, bassiste de Led Zeppelin, sur un titre à la basse. Il y a vraiment une pléiade de musiciens incroyables.
Manu Katché, il y a presque une tradition des batteurs qui chantent. On pense à Phil Collins et à Don Henley, des Eagles.
Ouais, je ne me compare pas à ces gens-là du tout. Moi, je ne me sens pas chanteur. C'était juste une envie de me dire voilà, comment faire effectivement passer le message. J'ai eu la chance de collaborer avec des grands de ce monde. Si je fais juste un truc instrumental, ça va peut-être passer un peu à côté. Donc j'ai écrit des chansons et je me suis dit, voilà, je pense qu'ils vont répondre présent et ça s'est fait comme ça.
Génial. Allez, extrait suivant. On est obligé. Hein. Nouvelle star. Quand on voit tout ce que vous avez fait, Manu Katché, ça ne vous empêche pas un peu de vous dire que finalement, c'est cette musique-là qu'on entend qui vous aura fait le plus connaître du grand public?
Non, parce que c'est, je pense que c'est cohérent avec ce que je suis, à savoir que quand on m'a proposé de faire cette émission, je ne savais pas ce que c'était. Je sortais de tournée de Sting, on avait fait 2 ans de tournée, j'avais un peu de mal à me dire je vais repartir encore sur la route pendant 2 ans, c'est quand même intense. Et on m'a proposé cette émission. Depuis que je fais de la musique, pour quelle raison, je n'ai pas la réponse. J'ai toujours reçu, à l'époque, c'était des cassettes, après ça a été des DAT, après ça a été... Aujourd'hui, on a des liens sur l'ordinateur, pour écouter des choses et donner mon avis. Donc j'ai toujours donné mon avis, mais depuis que je fais de la musique. Et tout à coup, le fait de pouvoir le faire sur une émission de télévision, populaire, en prime time, d'avoir cette position de batteur, donc d'apporter un petit peu une précision à ce métier, parce que souvent on a des chanteurs ou un producteur, mais on a rarement un batteur en place. Je me suis dit, ça peut être plutôt pas mal. Donc j'ai eu rendez-vous avec au 8e étage de la chaîne, et j'avais dit, voilà, moi je veux bien faire ce genre de choses-là, donner mon avis, mais que je sois totalement freestyle. Ne me demandez pas de dire un truc précis, parce que ça n'a pas marché.
Ouais.
Et la personne qui a validé l'émission, donc Thomas Valentin, pour ne pas le citer, m'a dit, ouais, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Et je me suis retrouvé à faire une nouvelle star. Effectivement, de donner mon avis, qui ne concerne que moi, j'ai pas la vérité, mais c'était extrêmement excitant parce qu'on découvrait de jeunes artistes en herbe et leur dire voilà, plutôt va là, plutôt que là, là ça fait pas du tout, toi c'est même pas la peine d'essayer, etc. Ouais. Juste pour leur faire gagner du temps. Et je pense qu'il y en a certains qui sont sortis de cette émission-là qui ont gagné du temps et qui sont encore là aujourd'hui.
Bah, comme Julien Doré, Christophe Willem, qui vous doivent quand même une partie de leur carrière aujourd'hui.
Rien. Simplement, ces gens-là se sont présentés. On a eu la chance de les rencontrer. Ils ont eu la chance de nous rencontrer. Ouais. Voilà, c'est cette espèce de truc qui se passe au moment où ça se passe. Et ils ont un certain talent et ils ont développé.
Fred ?
Mais Manu Katché, ça ne vous a pas donné le virus de la télévision aussi, cette aventure de la nouvelle star ? Ça ne vous a pas donné des idées à l'époque ?
Je dis, tiens, Fred, finalement. Je sais pourquoi vous dites ça. Parce qu'après, j'ai continué avec une émission sur Arte qui s'appelait One Shot Note.
On va en parler. Ouais.
En fait, j'avais l'idée de One Shot Note avant même de faire l'émission La Nouvelle Star.
Ah d'accord, bon, on va en reparler alors.
Et quel regard vous portez aujourd'hui sur The Voice qui finalement a un peu remplacé Nouvelle Star d'une certaine manière?
Alors c'est pas tout à fait pareil. Alors, c'est vrai que je ne regarde plus parce que je suis un peu comme ça. C'est-à-dire, j'ai pas du tout de... Une fois que j'ai fait quelque chose, je passe à autre chose. Donc je l'ai fait, c'est fini. The Voice m'excite pas trop dans le sens où moi, ce que j'aimais bien dans La Nouvelle Star, c'est qu'on avait vraiment... On pouvait aller en profondeur et c'était pas forcément à chaque fois consensuel.
Ouais. Très bien. Bah, allez, on s'arrête là pour ce portrait sonore et dans un instant, on va partir à Jazz sous les pommiers avec Fred Goati. C'est pas vraiment la saison des pommes, hein, Fred ?
Non, mais c'est la saison de Jazz sous les pommiers.
C'est la saison du jazz. Allez, à tout de suite sur Europe.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
À tous ceux qui se sont levés à 4h du matin pour éviter les bouchons et à tous les autres qui se sont dit exactement la même chose. Et à ceux qui disent aux enfants « Ah ben non, le lecteur de musique, il marche pas. » Et à vous, qui après 8 heures de route, avez envie de tout, sauf de faire des courses. Avec le Drive Intermarché, vous pouvez commander vos courses en ligne et les récupérer près de votre lieu de vacances, partout en France. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Liste des drives disponibles sur intermarché.com.
Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.
C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard.
Ouais, c'est moi, tu sais quoi ? Le saumon est en promo chez Auchan, du coup, ce soir, le Pokéball, je te le fais maison.
Jusqu'à dimanche chez Auchan, le filet de saumon atlantique est à 11,99€ le kilo.
Auchan, avec plaisir.
11,99€ le kilo de filet de saumon atlantique Salmo Salar élevé en Norvège ou Écosse. Valable dans vos magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel. Auchan, enseigne préférée sur la fraîcheur du poisson en hypermarché. Source Kantar Prométhée, voir détails sur Auchan.fr.
Le club de l'été, présenté par Thomas Hill sur Europe 1.
Marre de cette nana-là. Ça aussi, c'est vous, Manu Katché.
Ah ouais, c'est tout début.
À la batterie.
Et on était un groupe avec Patrick Bruel, qui n'était pas encore Patrick Bruel, et tout un groupe, des petites bandes à Paris, on se baladait, on sortait ensemble, on allait au restaurant, on allait en boîte de nuit, etc. Et un jour, Patrick dit, voilà, j'ai une chanson, ça s'appelle « Marre de cette nana-là ». Les musiciens qu'il connaissait autour de lui, c'était effectivement, j'en faisais partie. Mm-hmm. Ça vous branche de faire le titre ? Oui, pas de problème. Donc on se dit, on a enregistré ça, et c'est devenu « Marre de cette nana-là ». Et Bruel est devenu Patrick Bruel qu'on connaît aujourd'hui, énorme réussite.
Bien sûr.
Énorme artiste. Mais c'était un truc de pote encore. Il n'y avait pas tout à coup, ouais, on va faire, personne ne sait rien, on fait le truc au moment où on fait cette chanson-là. Voilà. D'ailleurs, si on écoute la phase B, ce qui est assez drôle, parce que c'était encore à l'époque des 45 tours, ça ne parle à personne aujourd'hui, évidemment, les 45 tours. Mais la phase B, c'était un truc de musicien, je pense que c'était, ça joue, il y a du slap, ça, c'est très très drôle, parce que c'est complètement décalé avec la volonté d'avoir un 45 tours bien formaté.
Ouais. Alors vous dites, c'est un truc de pote, il y en a avec qui ça s'est un peu moins bien passé. Je pense à Jean-Jacques Goldman, par exemple, vous dites, je me suis un petit peu ennuyé avec lui.
Bah, je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'on a réglé notre problème, on était fâchés pendant une bonne période. Bah, c'est-à-dire que quand moi j'ai été contacté pour faire l'album, dont vous avez passé un extrait tout à l'heure, je crois que c'était l'album Positif, il me semble. Nous, on était dans ce trip Toto, ce groupe Toto californien avec des musiciens exceptionnels qui avaient formé un groupe et qui jouaient du rock. Et nous, on était un petit peu avec mes comparses Jean-Yves D'Angelo au clavier et Camille Restam à la guitare. On avait envie de faire un petit peu ça en France. Et tout à coup, on est contacté par Jean-Jacques pour jouer sur l'album. On est ravis, c'est formidable. Ce sont des séances d'enregistrement. Et on se retrouve en tournée avec lui. Et sur la tournée, on s'est vraiment dit, voilà, on va jouer un peu rock. C'est un groupe de rock, quoi. Un peu à l'américaine, entre guillemets. Et finalement, on se retrouve à faire vraiment de la variette.
Ça vous a
baisser le volume. Avec toutes les petites minettes devant, habillées comme lui. Moi, c'était pas mon truc, donc je lui ai dit Ça lui a pas plu. Et là, on s'est un petit peu. Voilà, j'étais très jeune, donc alors on est un petit peu moins diplomate. Et voilà. Mais depuis, tout va bien. Et puis, énorme respect pour Jean-Jacques, parce que c'est vraiment quelqu'un d'assez incroyable. Mais
bien sûr.
On n'était pas dans la même veine musicale. Voilà.
Alors justement, on va s'intéresser un peu maintenant à votre style de musique préféré, le jazz. Fred, vous vouliez absolument nous parler aujourd'hui d'un de vos festivals de jazz préférés. Il aura lieu à Coutances, dans la Manche, en Normandie. Et l'on y jazz sous les pommiers.
Eh oui, mais compte tenu des dernières annonces gouvernementales, le pass sanitaire sera requis pour accéder à toutes les salles. Le contrôle s'effectuera par un stand dédié situé à proximité de la salle Marcel Ely, où vous sera remis un bracelet permanent ou à la journée, qui vous permettra une circulation fluide entre chaque site. Oui, je sais, le pass sanitaire ne fait pas l'unanimité, mais si l'on veut circuler librement à Coutances, si l'on veut jazzer sous les pommiers sans pépins, et oui, je ne pouvais pas m'en empêcher, il en faudra un pass sanitaire. En tout cas, moi, à Coutances, j'y serai, c'est certain. Jazz sous les pommiers fêtera cette année sa 40e édition, et c'est aujourd'hui l'un des festivals de jazz les plus exigeants, conviviaux et respectueux du public qui soit. D'habitude, Jazz sous les pommiers a lieu entre fin mai et début juin, mais comme le satané virus avait réduit à néant l'édition habituelle de 2020, la fine équipe coutançaise a pris les devants et décidé très tôt cette année de décaler le festival, et oui, ils sont malins, au mois d'août du 25 au 29. Il faut aller à Coutances, car il y aura notamment un grand pianiste américain. Oui, un américain, il y en a qui ont traversé l'Atlantique. Il s'appelle Kenny Barron et il jouera le vendredi 27 août. Et du côté des 88 touches d'ivoire et d'ébène, un autre poète du clavier malien, celui-là, Cheikh Tidiane Seck, rendra hommage à Randy Weston, lui aussi grand maître pianiste. Et puis bien sûr, la florissante scène jazz française sera bien sûr très avantageusement représentée avec par exemple le vénérable contrebassiste Henri Texier, mais la jeune garde ne sera pas en reste avec la saxophoniste Sophie Allour, la chanteuse Marion Rampal, la flûtiste Naïs Amjalal, le violoniste Théo Sekeldi, le saxophoniste Sylvain Riflet ou encore le tromboniste Fidèle Fourneron. Tous les instruments seront représentés. Mais tiens donc, mais que vois-je au programme dès le premier jour, le mercredi 25 août, un batteur à lunettes capable de rallier sous son étendard la trompette sensuelle d'Éric Truffaz ? Magnifique. Et on me souffle dans le casque qu'il invitera aussi qui ? Le Nigérian Kezia Jones, l'inventeur du blue funk, carrément.
Excellent.
Et comme si tout cela ne suffisait pas à notre bonheur, il conviera au joie la divine chanteuse Sandra Nkake, une jeune femme capable de donner la réplique à Gregory Porter lui-même. Hein, ça vous situe le niveau. Gregory Porter. Et attention.
Wow. Sandra Nkake, c'est ça ?
Sandra Nkake.
Someday we'll be free.
We all be free. Alors, un jour, nous serons tous
Fred,
libres.
Ce batteur à lunettes capable d'inviter des artistes aussi différents et talentueux les uns que les autres, est-ce qu'il ne s'appellerait pas Manu Katché ?
Quand vous avez deviné ?
Au pif.
Incroyable, mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je me tourne vers lui, Manu Katché, cette soirée exceptionnelle s'intitulera One Shot Note, si je ne m'abuse.
One Shot Note, hein ?
Alors, c'était le titre de votre très regrettée émission sur Arte. Comment vous est venue l'idée de littéralement la remettre en scène, en quelque sorte ?
Ben, j'avais fait, il y a quelques années, un Manu Katché and Friends à l'Olympia, où j'avais invité pas mal d'artistes, dont Raoul Midon, dont Stéphane Escher, Noah.
Et Sting aussi, je crois.
Sting également, oui. Richard Bonnat, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, parce qu'effectivement, sur scène, on peut enchaîner des styles avec une espèce de house band, comme on le faisait sur One Shot Note, à la télévision. Et comme on a eu cette pourriture de Covid, de virus, qui nous a quand même tous extrêmement déstabilisés, tout le monde a un petit peu réfléchi à comment opérer les festivals sans Américains, sans Anglais, sans étrangers finalement. Comment on pourrait faire pour effectivement quand même faire de la musique et avoir des gens qui soient présents. Et l'idée nous est venue donc avec certains programmateurs de se dire voilà, on pourrait récupérer l'idée de One Shot Note, en faire live, faire la même chose que sur un plateau télévisuel et effectivement le faire en live. Donc ce qui est un tout petit peu difficile pour moi, c'est non pas d'inviter les gens, mais c'est de passer entre les artistes, à savoir que je les présente, c'est-à-dire que je joue avec eux. On a un house band qui est mon groupe, Ensuite, une fois que j'ai terminé, j'enfile la veste, je cours devant, je prends le micro et je raconte une histoire. Parce que c'est quand même ça l'idée.
Ouais,
l'idée,
sûr.
C'est effectivement d'intégrer le public au spectacle. C'était juste pour leur faire un défilé d'artistes, ça n'a pas beaucoup de sens. L'intérêt, c'est vraiment qu'ils soient totalement intégrés à ce que nous faisons. Donc j'explique qui est qui, ce qu'il a fait, pourquoi il est là, etc.
Et le retour de One Shot Note à la télé, c'est pour quand hein?
Pas pour l'instant.
La télé, vous allez y revenir un jour?
Je sais pas.
Vous savez pas?
Je sais pas. J'ai pas de manque, j'ai pas de nostalgie, j'ai pas de manque. Alors, je vais pas rien vous cacher. Ouais, One Shot Note, on en parle, mais peut-être sous un autre format.
Ah, c'est possible alors.
C'est possible, d'accord. Mais peut-être pas à la télé.
Et vous nous disiez pendant la pub qu'aujourd'hui, la télé, la manière dont on fait ces télécrochets, tout ça, ça ne vous plaît pas beaucoup?
Ben non, c'est pour ça que vous me posez la question sur The Voice. Quand je dis que c'était consensuel, c'est-à-dire que moi, il y a quand même pléiade d'artistes qui sont extrêmement doués. On voit, à chaque fois, on s'extasie, on dit waouh, lui ou elle, elle chante sublimement bien et on n'entend plus jamais parler. On disait justement avec Margot, ben souvent, ce sont les seconds et pas les premiers. Finalement. Dans la mécanique, on ne sait pas trop comment ça se passe. On ne vend plus d'albums aujourd'hui, donc ce qui veut dire que quelle est la visibilité? Donc à qui profite cette émission réellement? Donc les artistes, moi j'en ai pas vu beaucoup. On a cité Loan pour The Voice, qui a réussi à sortir de ça. Je pense qu'à l'époque, l'autre émission qui était Star Academy, on avait vraiment Jennifer et Kenji
Girac, voilà. C'était plutôt The Voice, Kenji Girac.
Ah, pardon, voilà. Ouais. Sur The Voice, donc on en a deux. Sur Truc Academy, on en a deux aussi.
Est-ce que ce n'est pas finalement un manque d'accompagnement après le télécrochet?
C'est exactement ça. Donc, ça veut dire que le télécrochet, ça ne profite qu'au moment où on le fait, donc aux gens qui envoient des SMS, etc. Voilà, donc, voilà, la question, je ne la pose pas, mais je pense qu'on le sait tous. Donc, la mécanique, elle, effectivement, ça rapporte à la chaîne et pas forcément à l'artiste. Donc, on ne développe pas grand-chose. La
nouvelle star... permet de se montrer. Et puis après, c'est à eux de faire leur carrière ou non.
Ouais, mais enfin, quand on faisait la nouvelle star, que vous avez cité Willem, Amel Bent, par exemple, pour ne pas la citer aussi, et Julien Doré, sur 4 ans où moi j'ai participé, il y a quand même 3 artistes qui font une carrière depuis 10 ans. J'ai arrêté il y a 14 ans, donc depuis 14 ans. Donc ça veut bien dire que le fonctionnement est en place sur une émission qui n'est pas simplement, qui ne se regarde pas le nombril, qui essaye effectivement de développer des artistes. Ce qui n'est pas le cas, à mon avis, de The Voice, ce qui n'est pas le cas de Star Academy, où c'était vraiment une émission pour regarder la télé-réalité. Effectivement, on faisait de l'audimat, on faisait de l'audience, et c'était l'idée.
Et on se regarde le nombril.
Un poil.
Très bien, c'est clair. On va rester avec nous, Manu Katché. On va partir sur la route dans un instant avec notre invité média, Tony Comiti, le producteur des Routes de l'Impossible sur France 5. A tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Bonjour Tony Comiti. Tony Comiti qui vient de nous rejoindre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et avec notre invité Manu Katché qui est toujours là. Tony Comiti, vous êtes un grand reporter, photographe, grand producteur de télévision avec des milliers de reportages à votre actif. On vous reçoit aujourd'hui en tant que producteur du programme Les Routes de l'Impossible qui revient ce soir pour une saison 12 à 20h50 sur France 5. Alors l'idée, c'est de suivre des gens qui tentent de circuler sur ces routes dangereuses souvent au péril de leur vie, hein, faut bien le dire. C'est la plus vieille collection de doc de France 5, c'est ça?
Je ne sais pas si c'est la plus vieille, mais on est là depuis 14 ans.
14 ans.
Donc on en fait 8 par an, parce que ce n'est pas si simple de les faire. Et ça fonctionne.
En France et à l'international, parce que vous les vendez aussi.
Ça s'exporte beaucoup à l'international. On en est fiers d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai savoir-faire français, des reporters français, des journalistes français. Et... voilà, donc moi je suis assez fier qu'il y ait ce regard français sur le monde.
Ouais.
Qu'on ne laisse pas ça à Al Jazeera ou aux anglo-saxons. La France, je suis un peu cocorico, mais...
Cocorico, vous avez raison, attendez. Et alors ce soir, vous commencez fort justement avec l'Afghanistan, l'un des pays les plus fermés de la planète. Et ce pays, c'est un peu l'archétype de votre programme, hein, des routes à peine entretenues, dont certaines culminent à plus de 4000 mètres d'altitude. Et aucune autre solution finalement que de transporter les marchandises par la route, hein, y a pas le choix.
Ah ben non, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train. Donc la seule solution pour ravitailler de village à un autre village, ce sont les routes à travers des montagnes. Effectivement, c'est entre 3000 et 4000 ou 5000 mètres. Ce qui est extraordinaire là-bas, c'est les camions. Les camions sont ultra décorés. Ils sont des menuiseries peintes, sculptées. Donc ça, c'est formidable.
Alors, c'est pas du petit tuning.
C'est le tuning classe.
Non, là, c'est de l'art, vraiment.
Ah non, mais c'est de l'art pur. Quoi.
Ouais, donc, des camions magnifiques.
Surchargés. Alors, C'est des camions qui peuvent transporter 2 tonnes de marchandises, mais ils en mettent 6 ou 7, 8 tonnes, plus des passagers, des poules, des cochons, il y a de tout.
Ouais.
Voilà, donc, et c'est surtout des fruits, parce que l'Afghanistan importe 90% de fruits, parce que les paysans, les agriculteurs afghans préfèrent travailler sur le pavot. Ouais. Qui rapporte plus d'argent.
Du coup, tout vient du Pakistan. On suit notamment Azatullah, hein, qui transporte 17 tonnes de bananes dans son vieux camion. Et en plus des risques liés à la neige ou aux éboulements, il doit aussi supporter un racket permanent.
Le routier a traversé l'histoire de son pays au volant de son camion. Et il s'accorde à dire que, quelles que soient les époques, toutes ont le même point commun. Immuable. Les checkpoints. Et le racket permanent qui va avec. Et mieux vaut ne pas contester.
Je viens de prendre une amende.
Et pour quelle raison ?
Comme ça.
Voilà, pour quelle raison ? Comme ça. Il explique aussi que dans ses allers-retours avec le Pakistan pour aller chercher ses bananes, la douane afghane peut parfois les bloquer 15 à 20 jours sur place. Nous, on est fous quand c'est 15 à 20 minutes au péage. C'est 15 à 20 jours sur place. C'est vraiment un autre monde là, que vous nous faites découvrir.
Ah, mais il n'y a pas que l'Afghanistan. Hein. C'est à peu près dans tous les pays, dans toutes les contrées où nos reporters voyagent. Les gens peuvent attendre une pirogue pendant 3-4 jours, un taxi pendant 2 jours, mais toujours avec la banane. En fait, voilà, ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent jamais. Alors nous, effectivement, lorsqu'on a un train qui a une demi-heure de retard, on remet tout en question. C'est ça aussi un peu qui nous a donné, avec Patrice Lucchini qui dirige la collection, l'envie de montrer ce qui se passe ailleurs. Et, bon, c'est vrai, on a des problèmes en France et en Europe, mais voilà, donc ce ne sont pas les mêmes problèmes. Eux, c'est de la survie, pure survie.
Et puis c'est justement une manière
voilà,
de...
On est toujours en train de se plaindre, alors que ces gens-là, bon, finalement, il est là... dans la boue, en train de, dans, en pleine nuit, en transportant 50 personnes sur son camion au milieu de la Centrafrique. Il y a sa boîte de vitesse qui pète. Bon, ben voilà, donc il va se mettre sous la pluie, sous le camion. C'est parfois une kalachnikov qui va servir de cric. Et voilà, il va réparer avec ce qu'il peut sa boîte de vitesse. C'est incroyable. Nous, dès qu'on a en Europe, dès qu'on a une crevaison, c'est SOS pneu. Eux, ils se débrouillent. Quoi. Toujours avec ce sourire et la foi, que ce soit chrétien ou musulman, ils ont une sacrée foi quand même.
Et c'est ça qui est formidable dans votre série, c'est que ça permet aussi de mieux comprendre les conséquences concrètes sur la vie des gens d'un conflit comme celui qui mine l'Afghanistan depuis des décennies maintenant. Et alors parfois sur ces routes impossibles, les transporteurs, ils n'arrivent même pas à passer. C'est le cas de ce chauffeur qui transporte des pommes de terre et qui n'arrive pas à monter sur une route enneigée.
Résigné, le cultivateur a dû louer les services de porteur. Il marche près d'un kilomètre avec une centaine de kilos sur le dos.
Les sacs sont lourds et le trajet est long. On n'a pas de salaire fixe. On est payé au sac transporté. 1 euro par sac.
Voilà, 1 euro par sac pour transporter ces patates sur un kilomètre.
C'est les pigistes de l'impossible.
C'est ça, c'est terrible à voir. Et c'est très risqué d'emprunter ces routes pour ces chauffeurs. Ça n'est pas moins pour votre réalisateur, Paul Comiti. C'est votre fils, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait. Ouais.
Et vous le laissez faire ça ?
Bah,
il
est tombé dedans quand il était petit. Hein, donc,
c'est ça, avec son papa.
Ouais.
C'est vrai qu'en même temps, quand on a fait comme vous un doc sur le cartel de Medellín à la rencontre d'Escobar, j'imagine qu'on a peur de plus grand-chose.
Bon, c'est... C'est vrai que ça a été chaud avec Escobar, mais bon.
Non, mais c'est fou de se dire que ce monsieur a rencontré Pablo Escobar, les yeux dans les yeux, c'était en 87
C'est ça, exactement, en 87.
Quels souvenirs vous en gardez ?
Bon, écoutez, c'était un scoop énorme hein, à l'époque. Ouais. Hein. Donc il était en cavale surtout, Escobar. Donc, c'était de le rencontrer, ça n'a pas été simple. Hein. On fait pas. Alors, ça a été un travail. TF1 à l'époque m'avait donné un an, carte blanche pendant un an, ce qui aujourd'hui n'existe plus sur une chaîne de télé. Donc. Le souvenir, je ne vais pas dire de conneries, parce qu'il est capable de se retourner dans sa tombe. Et,
ah oui.
C'était si impressionnant que ça, vraiment.
Bah, oui, voilà. Ouais. Mais sur le coup, en fait, c'est ce que je dis toujours pendant l'interview que j'ai réalisé avec Jean Bertolino, qui était à l'époque le grand fondateur 52 sur la Lune. Quand vous êtes à la caméra, vous écoutez même plus ce que Escobar est en train de dire. Parce que votre souci, c'est que le rouge de la, du viseur soit bien en train et que la caméra fonctionne bien. Et vous regardez votre preneur de son et qui vous fait toutes les 4 secondes un petit signe. Parce que le cauchemar, ça aurait été qu'on a un problème technique. Vous voyez,
ouais. Oui.
Donc moi, j'écoute plus là. J'écoute plus ce que Escobar dit. Voilà. Donc, bon, c'est, sur le coup, on a toujours peur en y allant dans ces endroits comme sur les zones de conflit. Ça, on a un peu mal au ventre quand on va au front. Sur le coup, on est pris dans l'action. Donc ben, on oublie tout. Et puis après, sur Escobar, on s'est dit, mais pourquoi ils nous ont donné ça, quoi ? Ils nous ont tout montré. Il y a un truc qui ne colle pas, quoi. Donc, donc dans ces cas-là, une fois que vous avez en boîte, c'est oiseau de fer, Paris, immédiate, on rentre, quoi.
C'est ça, on rentre le plus vite possible. Voilà. Merci, merci Tony Comiti, producteur donc, du programme Les Routes de l'Impossible. C'est sur France 5, ça commence ce soir à 20h50 avec ce documentaire en Afghanistan. Et puis, suivront Honduras, Centrafrique, Ukraine dans les semaines à venir. Merci mille fois d'avoir été merci. Avec nous ce matin. Dans un instant, on va partir en vacances avec vous, Manu Katché. Mais avant cela, on écoute le groupe Imagine Dragons avec Follow You. Ça aussi, c'est un grand tube. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. You know I got your number, number all night. I'm always on your team, I got your back, all right. Taking on, taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. I'll always be around, wherever life takes you. You know I follow you. Call you up, you've been crying, crying all night. You're only disappointed in yourself, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna take you into the sunlight. If the world would only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. I'll always be around, wherever life takes you. You know I follow you. Enough love. She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it. I could fix it for you. But instead I'll be right here coming through. C'était Follow You d'Imagine Dragons. Manu Katché, chargez votre batterie dans le coffre de la voiture. On part en vacances avec vous dans un instant.
Le Club de l'été, présenté par Thomas Hill sur Europe 1.
Nuit magique, Catherine Lara dans ce club de l'été de Manu Katché. On fait le tour un petit peu de toutes les participations que vous avez eues dans tous les sens sur tout ce qui compte d'artistes en France et à l'international. C'est impressionnant votre carrière, Manu Katché, et il y a notamment Catherine Lara.
Eh bien, alors, Catherine Lara, c'est quand même un point important parce que je jouais avec elle pas mal en live et je n'avais jamais fait d'album. Et elle utilisait toujours des musiciens américains, dont Tony Levin à la basse. Et je me souviens plus du nom du batteur qui avait joué quand même sur... Flèche.
C'était Jerry Marotta,
non.
Peut-être. Non, c'était pas lui.
Andy Newmark.
Ah, Andy Newmark.
Pardon.
Voilà. Bien sûr.
C'est le quart d'heure batteur.
Mais non, mais c'est important. Andy Newmark a quand même joué avec sur Flèche de.
Sly and the Family Stone.
Ah, c'est pas juste un album, d'accord. C'est l'album. Voilà. Et l'arrangeur de Catherine Lara, pour ne pas le citer, Michel Curiau, avec lequel je travaillais beaucoup, notamment pour Jonas, pour d'autres choses comme ça, propose à Catherine de m'employer. Puisqu'il me dit, bah, écoute, tu travailles avec Manu sur scène, pourquoi ne pas l'employer un peu en studio? Ça peut être sympa. Et puis en plus de mélanger avec Tony Levin à la basse, ça va un peu changer. Elle n'est pas trop chaude au début, puis finalement, elle accepte. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que de ces séances-là, j'ai rencontré Tony Levin, avec évidemment bassiste de Peter Gabriel, avec lequel j'ai sympathisé, on a discuté, et puis j'ai su l'histoire ensuite, bien entendu, je ne l'ai pas su au moment précis. Lui est reparti aux États-Unis, il devait faire un nouvel album avec Peter Gabriel, il voulait changer de batteur, Peter voulait changer de batteur, qui était effectivement Jerry Marotta, et demande forcément au bassiste avec qui t'aimerais bien jouer, à qui tu penses, etc. Ah. Il lui cite plusieurs noms et Tony lui dit, écoute, j'ai rencontré un petit mec en France d'origine africaine par son père, qui joue plutôt du rock à la patate, qui sait lire la musique, ça serait peut-être pas mal lui. Donc il me conseille auprès de Peter et je me retrouve à faire l'album So.
Génial, génial, qui vous a fait décoller évidemment. Voilà. Allez, on va partir maintenant en vacances avec vous comme promis, on claque la portière, on clique la ceinture, on met le contact, c'est parti. Reste maintenant. Voilà. Oh, quel démarrage, enfin. reste à savoir la destination maintenant, Manu. Où est-ce que vous partez en général en vacances?
Alors, moi, j'ai un problème, c'est que j'ai un peu fait le tour. J'ai fait le tour à peu près trois fois. Donc,
Il y a pas mal de destinations, alors.
Il y a pas mal de destinations.
En France, alors.
Oui, on va rester en France.
Le Luberon, je crois.
Alors, ouais, parce que la France, c'est un beau pays. Hein. Je ne suis pas oublié. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a plein d'endroits magnifiques. Alors, moi, j'aime bien, effectivement, quand il n'y a pas trop de monde. parce que ça me relaxe un peu. Le Luberon, je trouve que c'est vraiment magnifique. Alors, il fait un tout petit peu chaud, alors pas cet été, parce qu'on a été bien pourri.
Ouais.
Mais les étés précédents, il fait très très chaud. Donc, si on va dans le Luberon, je le conseille, c'est d'avoir vraiment un endroit où il y a une piscine pour pouvoir se rafraîchir. Mais je trouve qu'effectivement, la campagne est magnifique, la lumière est exceptionnelle dans le Luberon, d'ailleurs dans tout le sud de la France, souvent, mais il y a vraiment une lumière particulière et il y a des odeurs extrêmement agréable. Et moi, ce que j'aime, c'est déambuler dans un petit village, m'asseoir effectivement à une terrasse de café, prendre un petit café et je suis un contemplatif, et regarder les gens passer, regarder ce qu'il y a autour. Et je peux bloquer sur les vieilles pierres, sur une jolie maison avec des volets verts, verts d'eau passés un peu. C'est superbe, quoi. C'est vraiment la France. Et c'est vrai que dans le Luberon, finalement, on rencontre pas mal d'étrangers qui sont en place dans ces coins-là. Et souvent, en étant là-bas, je me suis retrouvé avec des musiciens avec lesquels j'avais pu jouer auparavant en studio, sur scène. Et c'est plus probable dans ces régions-là que de les retrouver à Paris quand ils passent juste une journée pour faire un concert.
Alors, le Luberon, le Cantal aussi, je crois.
Alors, le Cantal, ça me tient à cœur parce que le Cantal, moi, je suis, même si vous ne le saviez pas, vous l'avez découvert sans ma fiche, de côté de ma maman, je suis auvergnat. Ouais. Et donc, j'ai passé toute mon enfance avec mes grands-parents dans le Cantal. Ouais. J'avais de la famille là-bas, donc j'allais tous les étés dans le Cantal. Et je me suis régalé. C'est là que j'ai rencontré plein de potes. Je me suis fait plein de potes, plein de copains. C'est là que j'ai dû avoir mes premières expériences amoureuses aussi, parce que j'étais tout jeune. Et j'ai skié là-bas. J'ai fait...
C'est Diane Chenouda qui arrive pour le flash de 10h.
Plein de choses, à savoir la montagne, le Puy-Marie. Enfin, c'est vraiment un coin que je connais plutôt vraiment bien. Ouais. Centre de la France. Alors, pour y accéder, à l'époque, c'était très compliqué. On y allait en voiture, il y avait plein de virages. Moi, j'étais très, très malade en voiture, c'était complexe. Mais entre le Cantal, la Bourboule, tout ça, régions du centre de la France très, très vertes, très, très... c'est parce que c'est ma Madeleine de Proust. J'étais enfant, donc forcément, bien je suis sûr. Lié à cette région-là.
Allez, on va vous mettre maintenant, Manu, devant les vrais grands choix de l'été. Ça va être dur, mais il va falloir choisir. En vacances, Manu Katchier, est-ce que vous êtes plutôt tempo rapide ou tempo lent?
Non.
Lent, définitivement. Mais vous avez répondu rapidement. Il y a quand même un sens du rythme chez vous, j'ai l'impression. Glace ou gaufre?
Aucun, rien.
E battu ou E à la coque?
À coque.
Vous partez avec Vianney ou Aya Nakamura?
Aucun.
Qui vous plaît dans la nouvelle génération?
Vianney.
Ah, quand même. Et si je vous donne le choix de partir entre Marianne James et André Manoukian?
Marianne. On l'a fait déjà. Hein.
C'est vrai?
Ouais, on est super. Fille super, géniale. On rigole. Hein.
Jazz in Marciac ou jazz à Vienne?
Ah, là, c'est difficile de y répondre. Parce que j'ai... Ah, waouh, ça, c'est une question difficile. Mais allez, je vais vous dire pour l'endroit, parce que c'est magnifique ce théâtre antique, jazz à Vienne.
Grosse caisse de vin ou vous restez à l'eau claire?
Bien joué, le jeu de mots. 22, quoi.
À la baguette ou à la cool?
À la cool.
Suivre une partition en mode visite guidée ou plutôt improvisée?
Improvisée.
Nouvelle star ou vieille charrue?
Vieille charrue.
Pieds nus ou sandales?
Sandales.
Casquette ou béret?
casquette.
Vous avez toujours quelque chose sur la tête de toute façon.
C'est un peu la trademark.
Hein. C'est ça. Refuge de montagne ou hôtel de bord de mer?
J'aime bien les deux.
C'est vrai?
Ouais.
Faut choisir la montagne.
L'été? On parle l'été?
Ouais, l'été.
Bord de mer.
Bord de mer. Petit déj ou brunch?
Brunch.
Et enfin, splash dans la piscine ou Why Splash? Film de Damien Chazelle dans la cave.
Whiplash, c'est énorme. Allez, je vais faire Whiplash.
Whiplash. Ça, c'était un super film, ça.
Incroyable.
C'est le batteur mis en exergue.
Parce que c'était vraiment chouette, c'était de redorer un peu le blason, quoi. C'est vrai qu'on c'est parle ça. Rarement des batteurs. Il y a eu des films sur Charlie Parker, saxophoniste, des pianistes, sur Ray Charles et autres. Mais c'est vrai que les batteurs, rarement. Et Damien Chazelle était batteur. Et je crois que c'est un petit peu son histoire.
C'est
ça. Il a rencontré un prof qui ne l'a pas vraiment aidé psychologiquement, qui lui a fait un peu de mal. Et tout à coup, d'arriver comme ça à mettre de cette manière-là la batterie. La batterie comme ça au premier niveau de manière frontale,
c'est ça qui est fort.
C'était extrêmement intéressant. Alors il y a plein de petites choses qui fonctionnaient pas, mais je pense que le public a pu quand même se rendre compte de ce qu'était cet instrument.
À voir Whiplash dans un instant, le rappel des titres de 10h, et puis on ouvrira le mini club de Clément Lanoux. On ne bouge pas.
Europe 1, 9h-11h, le club de l'été. Thomas Hill.
C'est donc la deuxième heure du club de l'été, la plus intense, la plus rythmée, toujours avec notre invité Manu Katché qui tient le tempo jusqu'à 11h, pas de doute là-dessus, je vous l'ai promis. On va vous tester sur les musiciens, les batteries dans un instant. Et puis Margot Barallon, vous allez partager avec nous votre indispensable du jour.
Oui, une série à rattraper cet été sur Disney+.
Côté musique, Fred Goati, vous allez nous raconter une nouvelle fois les dessous d'une chanson. Quelle est votre pépite du jour?
Alors là, c'est un sac de pépites parce qu'il y a un live inédit de Miles Davis qui a été enregistré à Jazz à Vienne. D'ailleurs, Manu Katché en parlait il y a quelques minutes. Donc j'ai apporté un petit sac de pépites avec, parce que Miles Davis, évidemment, on n'a que l'embarras du choix.
Ouais, ça va vous plaire ça, Manu. Et puis on terminera comme d'habitude par un coup de fil à un chef qui nous donnera sa petite recette de l'été. Le melon sera au menu aujourd'hui. Mais avant tout ça, on ouvre le mini-club de l'excellent Clément Lanoux.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, chaque jour, je débarque avec ce mini-club. On tend les micros aux enfants pour avoir des réponses. Et aujourd'hui, on va parler d'un métier qui n'est pas simple. Je sais que beaucoup nous écoutent, les maîtres et les maîtresses. La première question, elle est digne d'un sketch des Inconnus. J'ai demandé tout simplement aux enfants ce qu'était une bonne ou une mauvaise maîtresse.
Bah déjà, une mauvaise maîtresse, c'est quand par exemple, tu demandes un calcul à ta maîtresse et qu'elle vient à côté de toi et elle te souffle dans le nez une odeur de café et de cigarette.
Ça, c'est une mauvaise maîtresse.
Oui.
Effectivement, pardon pour toutes les maîtresses des années 70 qui arrivaient vraiment avec leur clope au bec au-dessus des enfants pour les devoirs de maths. Déjà, je leur ai demandé, est-ce que vous connaissez la signification du mot maîtresse? On va s'assurer qu'on ait bien la même signification quand même.
C'est pour les enfants ou pour les adultes, les maîtresses?
Pour les enfants.
Non, aucun adulte qui a une maîtresse, non?
Non. Si, ma mère.
Ah. Ta mère, elle a une maîtresse?
Parce que elle doit reprendre des choses.
Ah, elle reprend des cours?
Ouais.
Ah cool. Et ton père, il a pas de maîtresse?
Non.
Mais il veut pas de maîtresse?
Non, lui, c'est déjà tout.
C'est son père qui m'a donné un petit billet, tout simplement, pour m'assurer que je dise bien à la radio que son père n'a pas de maîtresse.
Voilà.
J'espère que le message est passé. Il y a un autre sujet sensible quand même avec la maîtresse. C'est quand on dit à quelqu'un, mais est-ce que tu serais pas amoureux de ta maîtresse? J'ai trouvé un enfant qui dément. Alors non, il n'est pas amoureux de sa maîtresse, mais j'ai quand même un petit doute, moi.
Est-ce que t'aimes bien ta maîtresse?
Oui.
Et on m'a dit que t'étais amoureux de ta maîtresse, c'est pas vrai ça?
Non, c'est pas vrai. En plus, elle est trop grande.
Elle est trop grande.
En plus, elle est vieille. Elle a 50 ans.
Ah, oui.
Et t'es amoureuse de la maîtresse qui a 50 ans?
Non!
Tu l'aimes bien?
Oui, je l'aime bien, mais je suis pas amoureux.
Donc voilà, la conversation aurait pu te dire environ une heure. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Et puisqu'on les aime, évidemment, toutes les maîtresses et tous les maîtres, j'ai demandé un truc plutôt mignon avant de vous quitter. Je me suis imaginé, comme on était en pleine vacances, que peut-être la maîtresse leur manquait tellement. On va imaginer une carte postale radiophonique qu'ils pourraient envoyer à leur maîtresse. Si tu devais envoyer une carte postale à ta maîtresse, là, cet été, qu'est-ce que tu lui dirais?
Bah, bonjour maîtresse, je suis bien en vacances et vous me manquez.
Bonjour maîtresse, j'espère que tu vas bien, que tu passes de bonnes vacances et moi aussi.
Alors, comment commencerait ta lettre?
Chère maîtresse.
Pourquoi chère maîtresse?
Bah, parce que vu sa voiture, et ben, on peut dire qu'elle est très riche, elle est payée beaucoup. Salut maîtresse, même si tes pulls sont très moches, j'espère que tu trouveras un mari cette année.
Si vous pouviez écrire une carte postale à votre maîtresse, ce serait quoi la carte postale?
Salut, je suis en vacances. J'ai détesté l'école. Moi, j'aurais écrit salut maîtresse. J'ai passé de très bonnes vacances en votre compagnie. C'était très bien. J'aurais bien voulu que les vacances soient prolongées. Et j'aimerais que la rentrée ne soit pas là.
Oui, effectivement, ils ne sont pas hyper pressés de rentrer. Merci les enfants. On embrasse évidemment tous les maîtres et les maîtresses de France dans tous les sens du terme.
Et bien sûr, on les embrasse. Merci beaucoup Clément Lanou. Dans un instant, Margot Barallon, vous revenez sur une série Disney+. Hein.
Oui, une série Marvel. Vous savez, ceux qui font des histoires de super-héros. Mais ça, c'est la série pour les gens qui en ont un peu marre des super-héros.
Ah, parfait. On revient dans deux minutes.
Thomas Hill vous présente le club de l'été sur Europe 1.
Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix.
Déjeuner en paix, Stéphane Escher. Ça aussi, c'est du Manu Katché. Et c'est un de vos grands amis, hein, Stéphane Escher. Ouais. Je crois qu'il a même dit un jour, je n'ai pas d'amis comme toi.
C'est possible, mais ça devait être dirigé pour plusieurs personnes. Mais ouais, on est très très proches. Ouais, c'est un artiste, c'est un créateur, c'est un essayiste. C'est quelqu'un de très très intéressant, assez complet. J'ai découvert effectivement juste avant de travailler avec lui via son manager de l'époque, et c'est vraiment quelqu'un qui n'arrête pas de faire des petits crobards, qui est très intéressé par pas mal d'auteurs étrangers, à savoir japonais, allemands et autres. Il est assez complet,
ouais, un artiste complet, ouais.
Je crois.
Allez Margot, ce matin, vous avez sous le coude une petite série à rattraper sur Disney+, super-héros, c'est ça ?
Presque, vous allez voir. Alors c'est la dernière série en date des studios Marvel qui effectivement met en scène tout un tas de personnages de super-héros, Spider-Man, Iron Man, Avengers. La série s'appelle Loki et elle se concentre donc sur le personnage du même nom qui n'est pas tout à fait un super-héros comme les autres.
Alors c'est qui Loki si c'est pas un super-héros ?
Alors c'est un personnage inspiré de la mythologie scandinave. En fait, c'est le dieu de la malice. Donc dans l'univers Marvel, Loki est le demi-frère de Thor. Alors il faut imaginer une fratrie un peu déséquilibrée. Thor, c'est le dieu parfait, super fort, avec son marteau, super beau, super sympa. Et Loki, c'est son petit frère, rusé, voire carrément un peu voyou. Et il est surtout extrêmement fourbe. Il est parfois du côté des super-héros, parfois contre eux. Et c'est ce qui en fait évidemment un personnage très intéressant pour développer une série.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte du coup, cette série ?
Alors là, c'est le moment où tout le monde doit prendre des notes parce que c'est un petit peu compliqué. Ah bon ? Au début de la série, Loki vole un cube cosmique aux Avengers, donc les gentils super-héros, rappelez-vous. Et il s'enfuit à travers l'espace-temps. Mais il est immédiatement arrêté par une femme en armure, pas très sympathique.
C'est apparemment une violation habituelle de séquence. Progression visuelle en ascension normale et stable. Variant identifié.
Je vous demande pardon.
Au nom du tribunal des variations anachroniques, je me dois de vous arrêter pour crime envers l'éternel flux temporel. Main en l'air. Vous venez avec nous.
Alors si vous n'avez rien compris, c'est normal.
Ah bon, en tu fait, nous rassures.
En s'enfuyant, Loki a ouvert en fait une nouvelle boucle temporelle dans l'univers. Il
Bien
a
sûr.
Créé un nouvel espace-temps. Et donc là, c'est le tribunal des variations anachroniques, le TVA, qui n'est pas content parce qu'il fait n'importe quoi avec le temps. Donc il l'arrête et il est considéré comme un variant. Les variants, personne n'aime ça, surtout en ce moment.
C'est
donc
clair.
Loki se retrouve au tribunal pour avoir fait n'importe quoi avec le temps. Et là, on lui propose un marché. La liberté contre un peu d'aide pour traquer un autre variant, donc quelqu'un d'autre qui, encore une fois, fait n'importe quoi avec les boucles temporelles, autre variant encore plus dangereux que lui.
Loki, je ne vous offrirai pas la rédemption, mais je peux peut-être vous offrir beaucoup mieux. Un variant en fuite tue nos minuteurs depuis un moment.
Et vous avez besoin du dieu de la malice pour y mettre un terme.
En effet.
Pourquoi moi ?
Ce variant que nous pourchassons... C'est vous.
Et oui, donc Loki est chargé de retrouver et de capturer en fait son double. Un double qui sème le chaos dans les lignes temporelles de l'univers.
Dis donc, on a vraiment bien fait de prendre des notes, Margot. Alors, qu'est-ce qui fait la réussite de cette série ?
Alors, avant tout, ce personnage principal qui est vraiment fascinant. Loki, c'est un anti-héros plein de contradictions. Par ailleurs, très très bien interprété hein, par l'acteur Tom Hiddleston. J'ai demandé à la réalisatrice de la série, qui s'appelle Kate Herron, de définir Loki. Et voilà ce qu'elle m'a répondu.
Je dirais l'indépendance, l'autorité et le style, en tout cas dans la série. Mais je pense que c'est aussi une sorte de malice mélangée à une sorte de... Il y a toujours de la souffrance, en fait, dans tous ces Loki. Ce sentiment d'être un marginal Il y a un beau surnom qui vient des comics, le dieu des marginaux auquel on fait référence dans la série. Et puis, le point clé pour moi, c'est que Loki survit toujours.
Voilà, Loki, c'est vraiment le mal-aimé, un peu triste, persuadé que ses parents préféraient son frère et il n'a pas tout à fait tort. Et puis, et ça c'est rare chez Marvel, qui préfère normalement juste aligner des scènes d'action, dans cette série, Loki développe des sentiments et on en apprend même un petit peu plus sur sa sexualité.
Parle-moi de toi. Tu es un prince ? Il y a dû y avoir de nombreuses princesses en herbe ? Ou peut-être un autre prince ?
Un peu des deux, en fait. Tout comme pour toi, je présume. Mais rien de suffisamment...
réel.
Un peu des deux, des princes, des princesses. Voilà, un personnage bisexuel chez Marvel. Ça, c'est pas commun.
Quoi ? On est chez Disney, là.
Bah ouais, carrément. Ouais. C'est fou, ça. Et il y en a eu énormément, des films Marvel. Vous en avez cité tout à l'heure, hein, Margot. Spider-Man, Iron Man, les Avengers. Est-ce qu'on en a pas un petit peu marre, quand même ?
Ah mais si. Si, moi j'en ai vraiment marre. Et alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'alors que les films commencent franchement à tourner en rond, c'est du côté des séries qu'on arrive encore à faire des choses originales. Il y a énormément d'inventivité esthétique dans les 6 épisodes de Loki, beaucoup plus que dans beaucoup de derniers films Marvel. Et Kate Herron le dit elle-même, elle s'est beaucoup amusée avec le format sériel.
Le truc excitant avec une série de 6 heures, au-delà de tout ce qu'on peut tenter visuellement en jouant avec les différents lieux, c'est le travail sur le personnage. On passe 6 heures avec Loki. Donc, ok, qu'est-ce qu'on peut faire à l'image pour porter l'histoire du personnage ? Je me suis beaucoup inspirée des films noirs parce que le deuxième épisode ressemble à une histoire de détective. Et ça a fini par transpirer tout au long de la série. Mais au-delà de ça, on a pu tellement développer le personnage de Loki. C'est impossible à faire dans un film, on n'a pas le temps.
Voilà, donc si vous en avez marre des films de super-héros, que vous voulez les voir autrement, eh bien, allez regarder du côté des séries, et notamment celle-là, Loki, sur Disney+.
Vous en avez marre, Manu Katché, des films de super-héros ? Est-ce que vous en regardez, des séries ?
Alors, il y a deux questions, là.
Je les enchaîne.
Oui. Donc, j'ai regardé Avengers comme tout le monde, ça m'a bien plu, voilà. J'ai pas développé ensuite. Par contre, je regarde pas les séries du tout. Je suis pas série du tout. Alors, ça m'endort.
Vous avez
ça
même
m'ennuie.
Pas regardé The Eddie, la série de Damien Chazelle.
J'ai regardé, on en parlait, mais malheureusement, j'étais déçu. Au bout de 3 épisodes, d'ailleurs, c'est pas lui qui réalise tous les épisodes, non. Notamment, et ça tourne un peu en rond. Moi, j'étais vraiment persuadé qu'on allait parler de musique dans un club avec effectivement toutes ces influences européenne.
Oui, parce que tout se passe dans un club de jazz à Paris.
Avec des influences musique arabe et autres. Et tout à coup, c'est pas très développé. Ce qui est développé, c'est effectivement, il y a des mecs qui se font égorger par des mecs de l'Est et on retombe dans la série thriller classique, violent. Donc non, je regarde pas les séries. Je suis pas très fan de séries. Je suis plus fan de doc. Parce que c'est sur des gens qui ont existé ou qui existent encore. Parce que là, notamment, j'ai regardé Formula One.
C'est génial.
Et ça, j'avoue, j'ai
ça aussi, c'est sur Netflix.
Ouais.
Voilà. Sur les coulisses de la Formule 1.
Voilà. Sur Jordan, évidemment. Enfin, il y a plein de docs. C'est à tomber. C'est extrêmement intéressant. Puis là, ça vous embarque vraiment dans un monde actuel, quoi. On n'est pas avec les Avengers et autres, quoi.
Bon, justement, on va parler musique dans un instant avec le blind test spécial riff de batterie. Avant ça, on écoute Ben, l'oncle Soul, avec Soul Man. Merci d'être avec nous sur Europe 1.
J'ai pas le regard de Spike Lee. J'ai pas le génie de Da Vinci. J'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière. J'ai pas ces choses-là. J'ai pas l'humour de Charlie Chaplin.
C'était Ben, l'oncle Soul sur Europe 1 avec Manu Katché qui nous faisait le rythme à la batterie.
C'est excellent.
Allez, on revient dans un instant et on va jouer sur des intros de batterie d'anthologie.
Thomas Hill vous présente le club de l'été sur Europe 1.
Un Englishman in New York de Sting, là encore avec du Manu Katché dedans. Et notamment un solo mémorable. Ça, c'est formidable ça. Racontez-nous comment ça se passe, c'est vous qui lui proposez ?
Non, c'est lui qui a eu l'idée.
Ouais.
Toute la partie reggae, ça c'est moi qui lui propose, effectivement, parce que c'était pas vraiment écrit au départ. On était à Montserrat quand on a enregistré cet album, mais malheureusement ce studio a disparu après une espèce d'ouragan terrible, donc ça n'existe plus. Et on était tous ensemble là-bas, et quand on a commencé Englishman, ça groove comme ça à la basse, il nous fait le thème mélodique, et je pars sur alors, le reggae, généralement, pour ceux qui savent, c'est la grosse caisse sur le backbeat. Et je le vois qu'il a le sourire, ça le chauffe. Donc on connaît là-dessus. Et après, il me dit voilà, mais il y a un moment donné, on va passer jazz, swing, donc. Ouais. Ok, mais juste avant, il faudrait que tu fasses un truc un peu. Une rupture assez puissante, hip-hop. Waouh, on sort d'un truc reggae pour aller à un truc de jazz, parce que c'est pas un truc hip-hop, c'est particulier, quoi.
Ah, c'est osé.
Et finalement, il l'avait en tête, quoi, donc c'est très fort.
Et ça marche à l'arrivée. Alors, à propos de solo de batterie, justement, on vous a préparé un petit blind test aujourd'hui, un blind test spécial sur donc de grandes intros de chansons à la batterie. Et comme d'habitude, on commence très facile.
Michael Jackson, donc ça doit être John Robinson.
Non.
C'est pas John Robinson.
C'est un batteur de jazz.
C'est pas. Alors, si c'est un batteur de jazz sur.
Ouais, c'est un batteur de jazz avec Michael Jackson, oui.
Parce que Michael, ça, on sait que c'est Michael, mais.
Il a joué avec George Duke et Weather Report, cher Manu Katché, ça devrait vous aider.
Ça n'est pas Chester Thompson.
Non plus.
C'est Billie Jean.
Oui, non, mais ça, oui, mais on cherche le nom du batteur.
Ah, il est en train de tester. On en est à chercher le nom du batteur avec
comme
frère,
ça. Excuse-moi, frère. Comme ça, nous.
Ah oui, ça devient très pointu. C'est
les blind tests. Allez, blind tests. Oui, c'est Léon Chancleur. C'est
un batteur magnifique.
Très bien.
Évidemment.
Bien sûr, on l'avait tous.
Tout ça pour vous dire que le jazz est partout. Le jazz est partout.
Incroyable. Allez, prochain extrait. On se contentera du titre.
Oui, c'est Larry Mullen, U2, Bloody Sunday.
Bloody Sunday, bien sûr.
Ouais, super groupe. Attends, moi je les ai vus juste avant le Covid. Maintenant c'est une référence pré-Covid, post-Covid. À Séoul, on était là-bas en concert avec mon groupe et le lendemain soir ils jouaient stade de baseball. Laisse tomber, c'était magnifique. Ouais. En plus, il y avait des images sur des écrans qui faisaient des kilomètres de long. Et ce qui était formidable, c'était pas des effets spéciaux, c'était que des très très belles images de Josh Quatri. C'était fabuleux.
Ils ont un tout petit peu de moyens, je crois. Fred.
Comme Manu Katché est très modeste, il ne le racontera pas. Il y a très longtemps, il m'avait raconté que le batteur de U2 lui avait demandé la permission de s'installer derrière lui pendant un concert de Peter Gabriel, j'imagine, ou de Sting, pour le regarder jouer, parce qu'il était fan.
Avec Peter, oui.
Voilà. C'est énorme, c'est excellent. Allez, prochain extrait, là, on retourne en France, là. Vous l'avez pas ? Là, vous avez peut-être piégé, là. Ça fait plaisir.
C'est qui ?
Vous connaissez pas cette voix ?
Non.
Calogero.
Ah ouais, je sais pas.
Non, non. Pas fan, visiblement.
Pas trop. Non, alors, j'ai toujours des histoires à propos de tout. Hein. C'est un garçon extrêmement sympathique.
Ouais.
Et pour vous dire la vérité, avant qu'il ne devienne Calogero, il faisait partie d'un groupe qui s'appelle les Charts.
Ouais, bien sûr.
Et les Charts, on a enregistré avec Pino Palladino, mon comparse bassiste, leur album.
Okay.
C'est drôle, Calo avait plein de cheveux à l'époque, tout bouclé, tout frisé, c'était un enfant. Et on avait commencé à collaborer comme ça. Et après, il est devenu finalement Calogero. Moi, je n'ai pas vraiment suivi, donc c'est pour ça que je dis, j'ai rien contre lui, absolument pas. Mais ça, c'est vrai que je n'écoute pas beaucoup.
Allez, le suivant. Fred, tu l'as ? Non ?
Je l'ai sous le nez, évidemment, je triche un peu.
Ah, d'accord. Il a le test.
Je connais que ça, mais le problème, c'est que moi, je suis blind test.
Ça, c'est Blur, ça.
Ah, voilà, Blur, merci.
Sans tout.
Oui, bien sûr.
Allez, la suivante.
Ah. Un grand tube des années 70, ça.
Oui, bah oui, déjà, le son. Hein.
Ouais.
J'adore cette musique. Mais je sais, j'ai pas le titre, mais oui.
My Sharona.
Oui, c'est vraiment un grand tube des années 70. C'est un groupe qui a fait voilà, que ce morceau.
C'est ça.
Enfin, ils l'ont fait, ils en ont vendu des millions.
Super. Mais il n'y a pas pire que moi au Blind Test, hein, je vous le dis. En fait,
celle-là, vous allez la reconnaître, vous allez voir. Alors, vous la reconnaissez, mais il faut trouver le nom, c'est ça.
C'est ça, le nom. C'est terrible. Hein.
C'était bloqué.
Ah ouais, terrible. Le Blind Test, il n'y a pas pire que moi.
C'est Iggy Pop. Hein.
Ouais, c'est une intro mémorable. C'est deux frères, batteur, batterie. Et Bowie va les embaucher quelques années plus tard pour faire son groupe de hard rock Teen Machine.
Teen Machine, exactement. Tout ça, ça me parle quand je les écoute, mais je peux pas mettre le nom dessus.
Allez, maintenant, peut-être la ligne de batterie la plus funky du monde.
Ah. Oh là.
Non, ouais, que ça. Ouais. Ça groove grave. Ça, c'est fabuleux. Avec James, mais je ne me souviens pas
James
du nom
Brown,
du
ouais.
Je me souviens pas du nom du batteur.
C'est Funky Drummer.
Ouais.
Alors le batteur, il faut citer son nom parce que c'est un génie. Il s'appelle Clyde Stubblefield. Il faut savoir que ce break de batterie, hein, c'est quand le batteur se met à jouer tout seul, bah, il a été samplé des centaines de fois et ce pauvre batteur n'a jamais touché un centime.
Zéro.
Hélas, pour lui.
Disparu en 2017.
Et ses frais médicaux, il a été malade très longtemps avant de mourir, avaient été payés par Prince, qui lui savait la valeur des choses et l'avait beaucoup aidé avant qu'il parte.
Allez, on revient en France avec cette intro. Du rock français, jeune et con, ça vous parle ? 16.
Non,
vous l'avez pas. Là aussi, la batterie.
Je connais pas.
Non, vous connaissez pas.
Non.
Il y a de sens. Non.
Quelle année ça ?
Non, j'insiste pas.
Quelle année ?
Oh, c'est ça a une quinzaine d'années, je pense. Ouais, dans les années.
Il y a un truc quand même, c'est que j'étais pas là plus. Enfin, j'étais pas sur le territoire, quoi. Pendant très longtemps.
Ah oui, ça peut jouer, effectivement, ça peut jouer. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes prêté au jeu. Oh, c'est pas si mal, on a quelques points, on va pas dire combien, mais on en a quelques-uns. Allez, dans un instant, votre pépite du jour, Fred.
Miles Davis à la trompette.
À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
On trace la route, on se regarde pas, on pense à l'amour.
On trace la route, Christophe Maé, ça aussi c'est une collaboration avec Manu Katché.
Ah oui, Thomas, vous venez de me l'indiquer, j'ai oublié. J'ai
complètement oublié, ça c'est magnifique. C'est qu'il y a des collaborations, vous en faites tellement en fait que parfois ça vous arrive
d'en oublier. Oui, je ne vais pas frimer, etc. Ouais, j'en ai fait beaucoup, donc c'est vrai qu'à un moment je ne comptabilise pas, je ne sais plus, il y a des choses que j'ai oubliées. Parfois quelqu'un me dit, comme Fred, oui Manu c'est toi qui joues là-dessus. Je dis, bon ? Oui, là, l'année, le studio, c'est difficile, hein. Ça fait quand même quoi, 40 ans que je fais ça.
Bah oui, c'est normal. Alors on va maintenant parler justement avec Fred Goati de votre référence absolue, de votre maître, hein, qui n'est pas Christophe Maé, mais Miles Davis. Merci Miles, c'est le titre du double album live et inédit de ce légendaire trompettiste de jazz. Il vient de sortir là, il avait été enregistré peu de temps avant sa mort, il y a déjà 30 ans Fred.
Ouais.
Ça sort pour l'échafaud.
Ouais. Non, mais ça, évidemment. Bah, évidemment. C'est pas un extrait de Merci Miles, hein, mais c'est la légendaire musique du premier long métrage d'un jeune cinéaste français.
Oui,
comment il s'appelait, Margot ?
Louis Malle
lui-même, hein. Ascenseur pour l'échafaud.
René Ortréguer au clavier, je sais plus qui était à la basse.
Et qui était Pierre Michelot, évidemment.
Pierre Michelot, improvisation pendant les images. Hein.
Ils ne l'ont vu qu'une fois et ils improvisent la musique en voyant.
Mais ils me font ma chronique, ils sont merveilleux.
Au revoir, Fred. Merci.
Merci, c'est sympa.
Alors, c'était au Poste Parisien sur les Champs-Élysées. Et Jeanne Moreau était là, dans le studio, évidemment. Deux ans plus tard, début 59, Miles Davis enregistre, en quelques heures, encore une fois, un album culte de chez culte, qu'on a toujours l'impression d'écouter pour la première fois, même si c'est pour la 600e. Il s'appelle Kind of Blue, et il est au jazz, parce que la Joconde est à la peinture, hein, carrément. Voilà. Ça aussi. Enregistré comme ça. Quelques esquisses sur des partitions, même pas. Quelques heures. La nuit. Alors, dans les années 60, ça c'est 1959, hein, bah Miles il va continuer d'innover avec un quintet extraordinaire avec Herbie Hancock au piano. Puis dans les années 70, il va passer au jazz électrique. Il va prendre carrément Jimi Hendrix sur son terrain. Puis entre 75 et 80, plus rien. Il ferme la porte de son appartement. On lui fiche la paix. Il prend 5 ans de retraite. Et puis il fait un comeback inespéré dans les années 80. Hein. Et à votre avis, qu'est-ce que subitement il se met à jouer? Tiens, est-ce qu'il, par hasard, il jouerait du... Eh oui,
Cyndi Lauper.
Cyndi Lauper. Eh oui, Miles Davis se met à jouer des mélodies pop. Eh oui. Vous vous rendez compte? Finalement, Miles Davis, il a eu plus de vie que tous les chats de la création. Hein, c'est un phénix. On faut lui redemander de renaître ses cendres tous les jours à peu près. Hein, parce qu'il a aussi bien collaboré avec Charlie Parker, l'un des grands novateurs du jazz. John Coltrane, fabuleux saxophoniste. Le groupe rock Toto, dont Manu Katché parlait tout à l'heure. Le crooner italien Zucchero. Et même Prince. Et quand il jouait justement Time After Time de Cyndi Lauper sur scène, comme en 91 à Jazz à Vienne, il n'y avait qu'une chose cause, une seule chose qui primait, l'émotion. Et voilà. Manu Katché nous montre ses bras, il a la chair de poule.
Le son. Ouais.
Alors oui, ça fait 30 ans que Miles Davis, Thomas, vous le rappeliez, a tiré sa révérence, et son irrévérence aussi sans doute. Mais sa musique est toujours aussi présente, toujours aussi vivante, toujours aussi vitale. On pouvait tout attendre de Miles Davis, mais il ne valait surtout rien lui demander. Tiens, je vous ai retrouvé un petit document amusant. À l'automne 1990, Miles Davis était l'invité surprise de l'émission de Jean-Pierre Foucault, Sacrée Soirée. Dont l'invité principal était la regrettée Juliette Gréco, qui fut, comme chacun sait, l'un des grands amours de Miles Davis. Et l'ami Jean-Pierre Foucault s'était risqué à demander à Miles Davis de jouer quelques notes de trompette, mais...
Est-ce qu'il serait trop vous demander de nous offrir trois notes, uniquement trois notes. Demandez-le de ma part, Juliette, vous, il ne peut pas vous refuser.
Je ne peux rien demander à Miles. Ouais. Miles est un homme qui fait des cadeaux, mais c'est tout.
Voilà, Miles est un homme qui fait des cadeaux.
Il n'a pas eu ses trois notes, hein, Jean-Pierre?
Non, il les avait eu au tout début de l'émission, mais le micro était très très mal branché, donc Miles Davis s'était vexé et il n'a pas rejoué après. Par contre, il a fait un très joli bisou sur la bouche à Juliette Gréco. Si c'est sur YouTube, je vous invite à le regarder.
Moi, j'ai vu Manu Katché à la batterie tout à l'heure, hein. C'était exceptionnel. Hein.
Ah bah oui, en direct, en studio, c'est rare. Hein. Alors, donc, merci Miles, hein, c'est le titre de cet album. Et ça tombe bien, puisque donc, c'est le titre de ce disque qui vient de tomber du ciel. Manu Katché, j'ai une question. Vous auriez pu jouer avec Miles Davis, vous l'avez croisé ou pas?
Je m'attendais à la question.
Oui, bien sûr, mais moi j'aimerais bien savoir.
Alors on s'est croisé une fois. Alors j'ai une petite. Évidemment, j'ai une anecdote. Hein. Je commence à
toujours.
Un vieux mec qui a plein d'anecdotes à raconter. On était donc Giant Stadium avec Peter Gabriel 88 pour la tournée Amnesty International. Fin de la tournée Amnesty. Donc tous les artistes sont là. Giant Stadium, c'est gigantesque. Je ne sais plus comment on y met de public. Et pour se rendre à la scène, c'est des petites voitures électriques, voitures de golf. Donc je termine la prestation et je reviens donc aux loges. Et à ce moment-là, en revenant dans les loges, les couloirs des loges, en petite voiture électrique, donc, il y a juste à côté, il y a la voiture avec Miles. Et là, je suis un peu. Je suis fan, j'aime beaucoup ce ouais. monsieur. On s'arrête au pied de l'escalier des loges. Et là, comme n'importe qui, je vais le voir, je dis voilà, je suis fan de Miles. Enfin, je dis n'importe quoi. Et là, le mec me répond You sound great, man. Donc là, je fonds. Et tout à coup, il hurle. Et donc, j'ai peur parce qu'il vient de me faire un compliment. Et en même temps, derrière, il hurle, mais il lève les bras. J'ai dû dire. Et derrière, je me retourne. En fait, ce n'était pas à mon intention. Il y avait en haut des marches Mohamed Ali.
D'accord. Petite vexation. Très bien. Merci beaucoup, Manu. Dans un instant, la plus voyageuse, la plus Philippe Goudler de cette émission, Margot Barallon, et ses bons plans pour nos vacances. Où est-ce qu'on part aujourd'hui?
Eh bien, dans le département des premiers amis, des premières amours de Manu Katché. On va dans le Cantal.
Ah, on va dans le Cantal. Formidable. Merci, Margot. À tout de suite. Cool.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Cargo de nuit, encore un tube qui porte la trace de Manu Katché.
Hein.
Oui, ah, mais je découvre, ça fait, je connais ce tube depuis quoi, 35 ans, 40 ans, je ne savais pas que c'était Manu Katché à la batterie.
Oui,
incroyable, on en apprend tous les jours.
Vous êtes vraiment passé d'un style à l'autre.
Ouais, alors ça, si on écoute bien, c'était, je me souviens, Studio Ville Tanneuse à l'époque de Vogue, parce que chaque maison de disques, les gens ne le savent plus, hein, ça n'existe plus d'ailleurs, mais avaient leur studio, donc enregistré dans leur propre studio, avec les bureaux au-dessus, les studios en dessous. Et avec Axel, donc, on enregistre ce titre-là. Et c'est juste avant ma collaboration avec Peter Gabriel.
Oui, il y a du Peter Gabriel.
Et si vous écoutez bien le titre jusqu'au bout, il y a ton clac-clac sur la snare que je refais ensuite dans...
La snare, c'est la caisse claire.
La caisse claire, pardon, oui. Que vous retrouvez ensuite sur le titre Sledgehammer.
Eh oui, quel morceau génial, Cargo de nuit en tout cas. Ouais.
Change de bord.
application pour écouter ça pendant des heures, mais vous aimez partir en vacances dans le Cantal, vous nous le disiez tout à l'heure. Et bien justement, Margot Barallon vous a déniché des bons petits plans dans le Cantal.
Bah oui, évidemment, si on parle de l'Auvergne, on parle d'une région volcanique, donc on file voir des volcans. Et vous en parliez tout à l'heure, Manu Katché, le plus emblématique du Cantal, c'est le Puy-Marie. Évidemment, alors là, vous pouvez en profiter par quasiment tous les moyens. À pied, à vélo, à cheval, en parapente et bien sûr également en faisant de l'escalade, du trail. Donc voilà, quel que soit le niveau sportif, tout le monde trouvera son bonheur au Puy-Marie.
Et alors côté patrimoine, qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Eh bien d'aller à Salers par exemple, ah, on en entend.
Il y a du bon fromage là-bas.
Il y a les sources de Salers.
Il y a les sources, il y a un excellent fromage produit par une vache exceptionnelle elle aussi. C'est mais c'est, on l'oublie, une ville médiévale quand même qui s'est construite entre le 12e et le 16e siècle. Et donc là vous pouvez vous balader entre les maisons à tourelles, le beffroi, les remparts. C'est un véritable voyage dans le temps. Vous, la, vous, vous,
fait,
vous connaissez.
Oui, c'est magnifique, magnifique.
Et donc voilà, voyage dans le temps et au pays des toits de l'Auze, évidemment. Et puis à seulement une petite trentaine de kilomètres de Salers, vous avez aussi Tournemire, autre village médiéval lui aussi. Et là, à proximité, il y a le château d'Anjony qui date du 15e siècle et c'est un des rares à être resté très préservé. Donc vous pouvez l'admirer. Et puis bien sûr, je pourrais aussi citer Aurillac et Saint-Flour, deux jolies villes dans lesquelles on se balade et on mange, parce qu'on mange très bien,
très, très bien
dans le Cantal. La Ligot, la Truffade,
oh,
voilà.
J'adore.
Pour un été pas très ensoleillé, c'est pas mal.
Ah ouais, c'est pas mal.
Mais il n'y a pas que des vieilles pierres dans le Cantal. Pour voir quelque chose de plus moderne, on peut aussi aller du côté du viaduc de Garabit, construit par la société Eiffel. Et alors là, si vous le voyez, c'est vraiment très Eiffel dans le style, ça rappellera la tour. Ouais. Et le mieux, c'est de le voir de nuit, puisqu'il est complètement éclairé. Et alors là, cet entrelac de métal dans la nuit, c'est vraiment magnifique. Autre style, mais très beau.
Et puis, il y a aussi des moyens de transport originaux pour découvrir la région.
Oui, on peut par exemple essayer le vélo-rail. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien moi non plus, mais on va demander à Arnaud Vaucher. Bonjour Arnaud.
Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors,
bonjour
Arnaud,
à tous.
Arnaud Vaucher, vous avez acheté avec vos deux frères le vélo-rail du Césalier qui fête cette année ses 25 ans. Pour situer, on est entre Allanche et Landéra, donc c'est vraiment le nord du département, tout près du Puy-de-Dôme. Alors expliquez-nous en deux mots, qu'est-ce que c'est le vélo-rail ?
Alors du coup, oui, tout à fait. Donc on est au nord du département, donc sur le plateau du Césalier, nous exactement. Et donc du coup, le vélo-rail, en fait, c'est une sorte, on a plutôt le nom de Rosalie au bord de la mer. Donc en gros, c'est une Rosalie, mais du coup, au lieu d'avoir des pneus, ben, il y a des roues adaptées au rail.
Voilà, parce qu'on circule
pour adapter sur une ancienne voie ferrée.
Voilà, on circule sur une voie ferrée désaffectée et chaque vélo-rail peut transporter entre soit 4 adultes, soit 2 adultes et 3 enfants de moins de 10 ans. Alors vous proposez plusieurs parcours différents, il y en a 6 en tout. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le chemin ?
Alors c'est ça, on exploite 32 km de voie ferrée, donc divisé en 6 parcours. Donc il y en a pour tous les niveaux, hein, toutes les distances, toutes les difficultés. Et du coup, on peut notamment admirer la cascade des Vérines, où il y a un temps de pause au niveau de la cascade avec un temps de pique-nique pour les personnes qui partent à midi. On peut aussi admirer le viaduc de Saint-Saturnin en partant sur un parcours qui est un peu plus long de 15 km. On peut aussi aller du côté de Lugarde, donc un très joli village où on a une superbe vue sur tous les monts du Cantal arrivé là-bas. Et en partant de la gare d'Allanche, on peut partir plus dans la forêt, donc qui est très agréable aussi par les étés chauds, un peu loupé pour cette année. Et du coup, le terminus de ce côté-là, c'est un petit village qui s'appelle Moissac, où c'est un très joli village, avec vraiment des très belles maisons auvergnates, typique du Cantal, où c'est magnifique aussi.
Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Et puis si vous avez de la chance, dans la forêt, on pourra voir aussi des animaux. C'est la nature, donc c'est un peu le hasard. Merci beaucoup Arnaud Vaucher. Je rappelle que vous êtes à la tête du Vélorail du Césalier. Et on peut donc retrouver toutes les informations et réserver sur votre site vélorailcantal.com.
Merci Arnaud, à bientôt.
Merci à vous, à bientôt, merci.
Bonne idée de petite balade dans le Cantal qui fera plaisir donc, à notre invité du jour, Manu Katché. Vous parliez tout à l'heure, Manu, de Sledgehammer, il faut quand même qu'on l'écoute ça. Peter Gabriel, avec son album So. C'est l'album qui vous a fait mondialement connaître, ça.
Oui.
Et derrière, ça vous a permis de jouer avec Tracy Chapman, Dire Straits, ouais, Police.
Ouais, immédiatement derrière.
Les Bee Gees même.
Oui, aussi, oui. Jeff Beck, j'en passe, Johnny Mitchell. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup
de
monde.
Il y en a un avec lequel vous avez refusé de travailler. C'est, je ne sais pas qui refuse de travailler avec lui, c'est Mick Jagger.
Oui, alors, il faut quand même me permettre de l'expliquer pourquoi, parce qu'on m'a déjà posé la question. J'ai fait un premier bouquin qui était sorti il y a quelques années où je l'explique. C'est-à-dire que Mick Jagger me contacte, on a un rendez-vous à Paris, et c'est un type charmant, parle très très bien le français comme vous et moi.
Ouais.
On se rend rendez-vous dans sa suite, on boit un verre ensemble et il me dit voilà, je vais faire un album solo et j'aimerais bien effectivement que tu fasses partie de, sois le batteur quoi. Je dis pas de problème, donc il me donne un DAT, ce qui est un ancêtre aujourd'hui, bon pour comme si c'était un CD avec les morceaux enregistrés, c'est maquette, bon, les démos, et je repars. J'étais en train de faire un album avec Peter, je pense que c'était l'album Us ou Up, je sais plus exactement, donc je repars à Real World en Angleterre, je le remercie, on est à la fin de la conversation, je repars en Angleterre, j'écoute effectivement ce que les démos de Jagger et je m'y vois pas trop en fait. C'est-à-dire que j'imagine que lui m'a entendu sur des albums, ça l'a fait kiffer. Moi évidemment, j'ai un énorme respect pour les Stones et pour Jagger.
Ouais.
Et là tout à coup, je me dis je vais jouer un truc qui va être qui est pas vraiment dans mon univers. Donc je vais pas exceller, lui va être déçu parce qu'il m'a entendu sur d'autres choses qui lui ont plu et finalement à l'arrivée, ça va être 50-50, ça va être un peu tiède. Et j'ai pas envie de me griller avec un mec comme ça qui fait partie des Stones juste pour dire ouais, c'est super, j'ai fait un album soit avec Jagger. Donc je retourne à Real World, je continue l'enregistrement avec Peter Gabriel et je rappelle pas. Et un jour, effectivement, Jagger me piste, il me trouve facilement, il appelle Real World, toutes les secrétaires sont hystériques. Ouais, c'est Mick Jagger au téléphone.
Mick.
Donc je le prends, il dit oui, donc je conteste sur ton appel, qu'est-ce que tu en penses? Il y a une espèce de blanc, je sais pas trop quoi dire, je suis emmerdé quoi, parce que c'est quand même Mick Jagger. Et je dis non, Mick, en fait, j'ai écouté, c'est pas possible, c'est pas mon univers. Musical. Ok, merci. Fin du. Je raccroche. Peter me regarde et dit t'es complètement dingue, toi. T'as refusé Jagger. Alors, donc, je lui explique ce que je suis en train de vous expliquer. Le temps passe. Il fait son album. Voilà, bon. On se retrouve. Je suis à New York. On se retrouve avec le bassiste qui est le bassiste des Stones aujourd'hui, donc Daryl Jones, avec qui avait travaillé avec Miles Davis. Hein, ça fait le tour à chaque fois. On se retrouve dans un hôtel. Je reviens d'un concert avec Peter Gabriel aux États-Unis. Donc on est à New York. Et je dis à Daryl waouh, vous êtes là, t'es avec les Stones. Il dit ouais. Je lui dis Jagger est là. Il me dit ouais, il est au bar. Je lui dis tu penses que je peux aller le voir? Il me dit ouais, vas-y. Donc j'y viens avec moi. Donc on y va. À ce moment-là, Jagger me fait le hug à l'américaine. Et ça se passe très bien.
Donc il a tout compris.
Je pense qu'il a dû le couvrir.
C'est quand même la méga classe, moi, je trouve, de refuser de bosser avec Jagger.
Et d'avoir un hug quand même
et
à la
fin.
Ouais, mais c'était pas l'idée.
Allez, dans un instant, on va passer un coup de fil au chef Nordine Labia. Mais avant ça, on va écouter une chanson, une chanteuse, elle aussi, sortie de Nouvelle Star. C'était une autre époque après que vous soyez partie. C'est Kimber Rose avec Sober.
Sober, my temperature's a little colder. I see it clearly now, only fair for you. Cause I was young, dumb, and broken. How you being sober? My hands are shaking and the nights are lonely. I put my body and my soul through hell for you. Why does it hurt that it's sore? I've been drunk for 3 and 15 days. Pop that perfume.
I'm still
Sober de Kimber Rose sur Europa. Dans un instant, on va passer à table. Bah, il est bientôt midi, hein. Il est temps de commencer à réfléchir à ce qu'on va manger. On arrive dans deux minutes, à tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Et oui, ça, c'est le bon nom, ça. On est de retour avec Manu Katché pour les dernières mesures de l'émission. Vous le dites hein, quand vous en avez marre que je file la métaphore musicale, Manu. Hein.
Ah, c'est bien, c'est bien.
C'est bien, bien ça marche. Ah, bon. Et pour terminer l'émission, comme chaque jour, on va passer un petit coup de fil au chef d'un restaurant pour sa recette. Et aujourd'hui, on est avec Nordine Labia. Bonjour Nordine.
Bonjour Thomas, bonjour le club de l'été.
Vous êtes chef du restaurant À Mi-Chemin, c'est dans le 14e à Paris. Pourquoi ce nom d'ailleurs, À Mi-Chemin ? C'est entre quoi et quoi ?
À mi-chemin entre mon épouse Virginie qui est bretonne et moi je suis né en Tunisie. Et ça fait un mi-chemin entre deux cultures.
C'est ça.
Et deux êtres et la France nous a réunis.
C'est très beau. Une cuisine du coup méditerranéenne, d'inspiration en tout cas.
Voyageuse, parfumée à la méditerranéenne et produits locaux autour de Paris, Bretagne. On est à 200 km autour de Paris pour un produit sourcé, etc.
Et alors vos petite recette du jour, j'avais annoncé du melon tout à l'heure, vous avez changé d'avis finalement, vous partez sur un barbecue de légumes. Alors racontez-nous.
Je me suis dit pourquoi, parce que le barbecue, là on utilise beaucoup de barbecue, mais on est obligé plutôt d'utiliser de la viande et des poissons, mais on peut faire un barbecue juste de légumes, avec par exemple des poivrons, des courgettes, 4 tomates, c'est pour 4 personnes, des oignons et une aubergine, un filet de l'huile d'olive et laisser rôtir au barbecue
sur une plaque, 15 hein, du coup.
Minutes. Sur un barbecue, un fait de braise extérieure.
Mais pas sur la grille, vous ne mettez pas ça directement sur la grille ici ?
Directement sur la grille, avec la peau.
D'accord.
Donc ça va faire un goût un peu fumé et rôti.
Ah, ouais.
Pour les gens qui n'aiment pas la martine, on peut retirer la tour, on peut le manger soit tiède, soit froide. Et si on retourne au Cantal, on peut utiliser un fromage de salaire très frais. Ou si on est en Corse, on va utiliser un tombe de brebis frais. Et si on est en Bretagne, on peut mettre des sardines de Belle-Île. Et ça fait un repas d'été très facile. Et ça réunit tout le monde. Et on est bien dans la saison et dans l'esprit des vacances.
Ah oui, là, ça sent les vacances. Merci beaucoup, Nordine Labia, pour cette recette. Et puis, vous pouvez aller peut-être la déguster au restaurant À Mi-Chemin. C'est à Paris 14. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous. Merci. Au revoir.
Manu, justement, on parle de diversité en cuisine. Vous êtes, vous aussi, engagé, d'une certaine manière, pour la diversité culturelle avec votre émission. La Face Cachée, c'est sur yahoo.fr. Des entretiens comme ça, en tête-à-tête, avec une personnalité. Il y a Bruel, Noah, Angoune, Joey Star, tous vos potes, je pense qu'ils sont...
Pas forcément, non, c'est pas que les potes, c'est des personnalités, je pense, qui ont des choses à dire, qui ont eu pas mal de fêlures dans leur enfance, et je trouvais que c'était important. Il y a eu tout le mouvement Black Lives Matter, ensuite il y a eu le mouvement avec, en France, principalement Traoré, et je suis pas forcément dans cette direction-là, je trouve qu'il faut pas être agressif avec justement ce souci de racisme compliqué et complexe depuis des années. Je pense qu'on est plutôt, moi j'étais plutôt dans le témoignage et dans la non-agressivité, parce qu'effectivement, la différence, c'est compliqué de la comprendre. Et là, avec ces gens-là, qui ont réussi d'une certaine manière, évidemment, ce sont des gens populaires, mais ils ont certainement aussi, on l'a remarqué dans les interviews, on a des conversations de 2h30, en plus, on réduit à 10 minutes, bien entendu, mais il y a quand même un podcast qui permet d'en avoir 40 minutes. Mais ce sont des gens qui ont vraiment eu des difficultés au départ, comme beaucoup d'entre nous, plein de gens qui, d'ailleurs, qui peuvent nous écouter ou autres. Et la difficulté pour moi, c'était que j'avais envie de témoigner de cela, à savoir que ce n'est pas la réussite qui m'intéresse, c'est effectivement le processus, comment on se remet de ces difficultés, si on s'en remet un jour, c'est pas sûr. Et surtout, de pouvoir faire passer l'information, en tout cas ce témoignage, à la personne qui ne comprend pas la différence. C'est-à-dire pourquoi la différence, pourquoi alors lui il est arabe, lui il est black, lui il est ci, et on ne peut pas se mettre à sa place. Donc la seule manière de comprendre un petit peu cette mécanique de difficulté du délit de faciès et autres, c'est de témoigner de ce qu'on a pu ressentir étant jeune pour le faire passer, et la personne en face qui n'a jamais eu accès à ça, parce que lui on ne lui a jamais mal parlé de cette manière-là, on n'a jamais agi de cette manière-là contre lui, va peut-être comprendre un petit peu le process. Et la Face Cachée, c'est vraiment basé là-dessus.
La Face Cachée, c'est sur yahoo.fr et donc en podcast. Et alors, vos projets à l'avenir, j'ai ouï dire que vous prépariez le prochain album de Sting ?
Alors, ouais, c'est presque fini. Je pense que ça va être en novembre la sortie.
En novembre.
En novembre. On commence un nouvel album avec Peter Gabriel mois de septembre.
Oh, génial. C'est reparti.
Je pense que tout le monde s'est énervé pendant un an. On n'a rien fait. Donc,
reparti à fond. Tout le monde veut y aller là.
Et moi, je vais recommencer aussi un prochain album. Je sors un deuxième bouquin chez Grasset en 2022.
Vous arrêtez jamais.
Jamais.
On ne lâche rien. Allez, merci. Merci mille fois, Manu Katché, d'avoir été avec nous pendant ces deux heures. Merci à toute l'équipe du club à la préparation de cette émission et surtout merci à Margot Barallo et Fred Goati qui partent en vacances ce soir. C'était un bonheur d'être avec vous, les
plaisir
amis.
Plaisir partagé.
Merci, plaisir partagé aussi. Bien
lundi,
sûr.
Marjorie Adelson et Joe Hume seront à votre place et on aura le plaisir de recevoir la réalisatrice et auteure Anne de Petrigny. On se retrouve ce week-end entre 6 et 7 pour les meilleurs moments du club de l'été.